Mais dans la prière Notre Père, et on va la relire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, verset 9. Jésus dit : Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avions vu la dernière fois dans l'introduction et dans la première partie que cette prière est un modèle pour nous encourager à prier, pour nous enseigner à prier. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné ce modèle. Et il est le maître de la prière, il est Dieu, il est l'inspirateur des prières. Dieu veut que l'on prie et il a inventé la prière, qui est un moyen extraordinaire d'être en contact avec Dieu et d'obtenir des exaucements. Et nous avions vu que le commencement de la prière est tourné vers Dieu. Et ça, c'est un point très important, car on peut, avec l'habitude ou avec des mauvaises habitudes que l'on prend, tourner la prière vers l'homme. C'est-à-dire exprimer ses sentiments, ses émotions, ou penser, quand on est en groupe, penser à ceux qui nous écoutent, faire un message dans sa prière. La prière s'adresse à Dieu, notre Père. Et non seulement cela, mais on ne dit pas notre Père et puis après on passe à autre chose. Non, dans cette prière, dans ce modèle, on ne passe pas à autre chose. On reste sur notre Père parce qu'il dit que ton nom soit sanctifié. On avait vu la dernière fois que le nom de quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas simplement un nom, mais ça représente tout son caractère, toute sa personnalité. Jacob, le supplanteur, qui devient Israël, le prince de Dieu. Jésus, c'est Dieu sauve. Chaque nom hébraïque avait un sens et était lié à la vie, souvent, de la personne. Et là, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ta personne, que ton caractère soit à part, ne soit pas souillé par le péché ou par les mains humaines, mais que ton caractère soit connu comme étant saint, comme étant au-dessus. Et dans la prière, on doit d'abord s'approcher de Dieu. C'était ça mon message un peu de la semaine dernière. On doit entrer dans cette sainte présence de Dieu. On doit réaliser que Dieu nous écoute, qu'il est là, qu'on s'adresse à lui. Et là, ça change le cours de nos prières. On ne prie plus le mur, on ne prie plus une statue pour certains, qui prient vers des statues ou des images. On prie le Dieu vivant dont le nom est saint. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit la suite dans ce sens, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça nous étonne de prime abord que dans une prière, on dise que ton règne vienne. On n'est pas habitué à prier ça, Seigneur, que vienne ton règne. Mais en fait, c'est ce que tout croyant devrait souhaiter. Lorsqu'on voit le mal, la corruption qui règne, lorsqu'on voit la souffrance de millions de gens, l'injustice, à quoi aspire-t-on le plus? Est-ce que ça s'arrête? Et est-ce que quelqu'un vienne régler les choses, vienne instaurer la justice, et pas une justice humaine, une justice partiale, à moitié, mais une justice parfaite, qui est équitable, qui ne fait pas de favoritisme, une justice qui traite les hommes comme ils doivent être traités, et qui est bonne, qui est bénéfique. Et le chrétien en particulier, il aspire à ce que Dieu vienne établir son règne, sa justice. Que ton règne vienne. Et pour un juif, cette prière, c'était que le Messie vienne apporter son règne, vienne établir son règne. Et nous avons cette prière, oui, que Jésus, le Messie, revienne, pas vienne, il est déjà venu la première fois, mais qu'il revienne établir son règne. Lorsqu'on ne croit pas en Dieu, ou lorsque Dieu n'a pas beaucoup d'importance dans notre vie, l'histoire est une suite d'événements sans queue ni tête. C'est-à-dire, ah ben là, il y a eu une guerre, là, il y a eu une révolution, là, il y a eu une catastrophe, là, il y a eu une prospérité, et puis ça s'enchaîne, et puis on dit, oui, il y a des cycles, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Les hommes essayent de sonder l'histoire, les économistes en particulier essayent de tout calculer, de dire, voilà, il y aura une crise, mais elle va finir l'année prochaine, et chaque fois, ils se trompent, lamentablement, les économistes sont les pires historiens, les pires prophètes qui soient. Et puis les hommes politiques essayent de sonder, ils vont même interroger hein, des voyants et des astrologues, et ils n'ont toujours pas de réponse sur l'avenir. Mais quand on croit au Seigneur et en la Bible, on sait que l'histoire a un sens, que l'histoire avance, et que Dieu est au-dessus de notre humanité, et qu'il a son plan, et qu'il fait avancer son plan. Il a une horloge aussi qu'on appelle Israël. Bien que ce ne soit pas écrit comme ça dans la Bible, nous croyons qu'Israël est l'horloge de Dieu parce que c'est le peuple que Dieu a choisi, qui est central dans l'histoire de l'humanité. Dieu a choisi ce peuple tiré d'Abraham, de Jacob, du roi David, non pas parce qu'il était meilleur que les autres ou parce qu'il était un peuple merveilleux, non, il a dit « je vous ai choisi parce que vous étiez le moindre de tous les peuples ». Il dit ça dans le Deutéronome. Mais ce petit peuple, Dieu a voulu se révéler à lui et se révéler au monde en disant à Abraham, à travers toi, je bénirai toutes les nations. Et Israël est au centre de l'histoire et ce qui est fascinant, c'est qu'Israël est toujours au premier plan des actualités. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle à nouveau d'Israël, il se passe quelque chose, il y a des attaques, il y a le temple, il y a la Palestine, il y a... à l'ONU, et tout le temps on parle d'Israël, alors que c'est un tout petit pays avec quelques millions d'habitants, mais il y a là l'histoire qui se passe. Et non seulement l'histoire se passe en Israël, mais sur toute la terre. Dieu fait avancer son plan. Pour résumer ce qui se passe, avec la Bible en main, eh bien on voit dans la Bible que Dieu avait confié aux premiers hommes, Adam et Ève, de régner sur la terre. Il leur avait dit dans la Genèse, chapitre 2, vous allez vous multiplier et vous allez régner sur la terre. Et donc, ils ont commencé à le faire, mais ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, l'ange déchu, Satan, dans le serpent, est allé les tenter. Et quel était le but du serpent ? C'est que la créature de Dieu se révolte. Alors, il a amené Adam et Ève à se révolter contre leur créateur. Et en faisant cela, il aura pris le règne. Il s'est installé à la place d'Adam comme roi de la terre, comme prince de ce monde tel qu'il est appelé dans la Bible. C'est pour ça qu'il est appelé prince de ce monde. Et les hommes ont commencé à vivre sous la domination de Satan. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé juste après le péché, le premier événement dans la famille d'Adam et Ève? Un meurtre. Et pas simplement un meurtre, hein. Un meurtre fratricide. Caïn tue son frère. Immédiatement, le péché, la révolte, Satan domine. Qu'est-ce qui se passe? Le meurtre. Jésus a dit, hein, il est meurtrier dès le commencement. Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi les hommes aiment tuer? Pas tous les hommes, bien sûr, mais un certain nombre. Pourquoi? Parce qu'ils ont Satan qui a pris possession de leur cœur. Même s'ils n'y croient pas, hein, il n'y a pas besoin d'y croire pour qu'ils nous possèdent. Et Satan a commencé à établir son règne et il avait toute une lignée avec lui, la lignée de Caïn notamment, mais Dieu a bien sûr suscité une autre lignée, la lignée messianique. Et elle va passer par Noé et puis Abraham, etc. Tous les descendants qui arrivent jusqu'à Jésus, le Messie. Mais quelque part sur la terre, il y a deux lignées. Hein. Il y a la lignée messianique qui accomplit le plan de Dieu et puis il y a la lignée satanique. Qui a toujours travaillé contre. Il y a Amalek dans la Bible hein, qui a toujours attaqué Israël. Il y a les Égyptiens qui se sont souvent attaqués à Israël. Tous les ennemis d'Israël étaient de cette lignée pour empêcher la venue du Messie. Jusqu'à Judas l'Iscariote qui a trahi le Seigneur, qui l'a dénoncé pour qu'il soit arrêté et tué. La Bible dit que Satan est entré dans son cœur. Quand il a vu qu'il avait fait une erreur, il est allé se suicider. Et on voit encore l'œuvre du diable, hein, le suicide. Maintenant, avec la venue de Jésus, le Messie, puisque Jésus a accompli toutes les prophéties messianiques, sauf celle du règne futur, hein, il est vraiment le Messie incarné tel qu'il était présenté, né d'une vierge, né à Bethléem, né de Judas, de la tribu de Judas. Mais Jésus est venu reprendre à Satan son royaume. Et la Bible dit que sur la croix, Jésus a triomphé hein, du diable. Il a écrasé Satan. Comment quelqu'un sur une croix peut triompher hein? C'est vraiment extraordinaire. Sur une croix, vous êtes cloué. C'est vraiment le dernier endroit où on peut triompher de quoi que ce soit. Vous êtes cloué, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes totalement coincé sur cette croix. Et pourtant, c'est sur la croix, dit la Bible, et par la croix, que Jésus a triomphé du diable. Parce que par la croix, il a triomphé du péché et de la mort. Et c'est par le péché et la mort que Satan tenait l'humanité, en poussant les hommes à se révolter et en leur faisant craindre la mort, et en les poussant à s'entretuer, à se suicider. Mais Jésus est venu ravir le royaume. Et il est dit, dans Colossiens 1, j'aime beaucoup ce verset, on peut regarder le triomphe de Christ, hein, Colossiens chapitre 1, pour ceux qui croient, bien sûr. Verset 12, Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de qui ? De son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes transportés du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de Christ. Vous me dites, moi, quand j'ai cru au Seigneur, j'ai rien senti. Mais il n'y a pas à sentir. Ça ne se sent pas. C'est quelque chose qui s'accomplit dans le domaine spirituel. On n'est plus sous la domination du prince de ce monde, on est sous le règne de Christ. Que ton règne vienne. Mais ce règne n'est pas encore totalement accompli. Ce règne, cette délivrance a deux temps. Le premier temps, c'est dans le cœur d'individus qui croient. Et nous sommes dans cette période, ce premier temps, la première venue du Messie, où le règne vient dans le cœur. Jésus a dit, hein, mon royaume est en vous, mon royaume est au milieu de vous. Nous sommes le royaume de Dieu, si nous avons cru. L'Église, quelque part, est le royaume de Dieu sur terre. L'Église, non pas l'institution, non pas l'organisation, hein, mais les saints, ceux qui composent l'Église, les frères et sœurs en Christ qui ont le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau. Nous sommes le royaume de Dieu, mais il y a beaucoup encore à prendre. Il y a beaucoup de royaumes qui appartiennent encore au diable. D'ailleurs, quand le diable a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il lui a proposé à un moment ? Il lui dit, voilà, il a amené hein, tout en haut, il a dit, contemple tous les royaumes de la terre, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Jésus ne lui a pas dit, hein, ils ne sont pas à toi ces royaumes, alors qu'au fond, ces royaumes appartiennent au Seigneur, hein, au Père. Mais Jésus ne l'a pas repris, mais il ne s'est pas prosterné devant lui. Parce que Christ est venu lui prendre le royaume par sa mort et sa résurrection. Ce qui est frappant avec cette prière du Notre Père et cette phrase « Que ton règne vienne », c'est qu'elle se rapproche d'une prière juive qu'on appelle la prière du Kaddish. On la trouve dans le Talmud et c'est à peu près au temps de Jésus que cette prière est apparue dans les textes. Et je vais vous lire un extrait de ce Kaddish. « Qu'il soit magnifié et sanctifié, son nom est grand dans le monde, qu'il a créé suivant son bon plaisir, qu'il fasse régner son règne, alors c'est une traduction littérale hein, de l'araméen, et germer sa rédemption, et qu'il introduise son Messie, et qu'il rachète son peuple en vos vies et en vos jours, et dans les jours de toute la maison d'Israël, à l'instant et dans un temps proche, et qu'on dise Amen. » Voilà, donc la traduction est un petit peu, c'est pas très clair en français, mais on voit que ton nom soit sanctifié, qu'il règne hein, et qu'il introduise le Messie, qu'il fasse venir le Messie. Et les Juifs attendent toujours, pour la plupart d'entre eux, le Messie à venir. Un certain nombre de Juifs ont cru en Jésus, ils s'appellent des Juifs messianiques, hein, mais un grand nombre n'ont pas cru encore. Et un grand nombre n'attend même pas le Messie d'ailleurs, hein, sont totalement athées ou agnostiques. Mais le Seigneur va venir, son règne va venir, et quand Christ va venir la deuxième fois, là il va apporter vraiment le règne. Toute cette injustice, tout ce mal, toute cette souffrance va être jugée, punie, justement, et éradiquée de la terre. Satan lui-même sera enchaîné, on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, hein. Il sera enchaîné afin qu'il n'y ait rien, aucune tentation, aucun mal sur la terre. Et le Seigneur Jésus va régner, et nous régnerons avec lui, dit la Bible, pendant 1000 ans, ce règne extraordinaire sur la terre, où la terre sera différente parce qu'il n'y aura plus justement de mal, il n'y aura plus de tentation. Et pendant ce millénium, comme on l'appelle, hein, moi je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe donne un exemple, il dit le loup, hein, sera avec l'agneau, et le lion, hein, aussi, et le serpent sera dans le berceau du bébé. Est-ce que vous mettriez un serpent venimeux dans un berceau? C'est peut-être pas la première chose qu'on ferait, hein. Eh bien, ce sont des images pour dire qu'il y aura une paix parfaite sur la terre instaurée par le Seigneur. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir, mais si nous sommes croyants, nous savons que l'avenir appartient à Dieu, que la fin sera bonne. Bien sûr, quand on lit l'Apocalypse, la fin aura beaucoup de tourments pendant 7 ans, la fameuse grande tribulation. Beaucoup de tourments sur la terre. Non pas pour les croyants, mais pour ceux qui, justement, n'ont pas cru. Mais ces tourments seront des jugements qui vont tomber les uns après les autres de plus en plus forts. Parce qu'il faut d'abord juger pour régner. Il faut purifier la terre. Dieu ne peut pas arriver, Jésus ne peut pas venir comme disant, voilà, je vais être un homme politique, je vais être président du monde, et on va essayer d'arranger tout ce qui se passe. Il n'y arriverait, même lui n'y arriverait pas. Parce que les hommes sont encore pécheurs, il y a encore des tentations. Les hommes ne se soumettraient pas à lui, mais lorsqu'il va régner, ce sera un autre état, il sera le roi et non pas le président. Que ton règne vienne, ça doit faire partie de notre prière. Seigneur, que le mal soit vaincu définitivement, que Satan soit écrasé. Seigneur, qu'il le soit déjà dans ma vie, mais qu'il le soit sur cette terre. Et puis il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est fou comme quand j'étais enfant, j'ai appris cette prière à l'église catholique et je la récitais par cœur et je me rends compte que je la récitais sans rien comprendre. C'était dabada 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 manana, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Non. Et c'est terrible comme on peut mémoriser quelque chose et ne pas s'y arrêter. Et c'est important quand on lit la Bible de s'arrêter sur les phrases. Il y a des versets, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, hein, on le connaît par cœur. Mais des fois, il faut s'arrêter là. Mais qu'est-ce que ça dit au fond? Chaque mot, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et dans le Notre Père, il y a vraiment des choses extraordinaires. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Au ciel, est-ce qu'il y a des gens qui contredisent la volonté de Dieu? Non, au ciel, il n'y a pas de contradiction. La volonté de Dieu est totale. Les anges obéissent parfaitement à Dieu. Et le ciel n'étant pas simplement, hein, je l'avais dit, l'atmosphère, hein, le ciel, c'est là où Dieu a son trône, là où Dieu règne, justement. Il y a une image du ciel dans l'Apocalypse, hein, c'est présenté comme une sorte de mer de verre, là où est le trône de Dieu. C'est-à-dire une mer de cristal, une mer absolument calme, où il n'y a aucune vaguelette, il n'y a aucun vent, il n'y a rien. Tout est soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est le ciel. Et c'est ce qui fait que quand on ira au ciel, ce sera merveilleux, parce qu'il n'y aura plus ces luttes, ces souffrances, ces trucs, esprits tordus. Il n'y aura plus de menteurs, dit la Bible, hein, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura même pas de mensonges. Il n'y aura plus rien de tordu. Tout sera soumis à la volonté de Dieu, mais dans cette volonté magnifique. Sur la terre, on est d'accord qu'il en va autrement. La volonté de Dieu est souvent contredite. C'est pour ça que la prière dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. qu'il y ait la même approbation de ta volonté sur la terre. La Bible dit que dans Romains 12, 2, que la volonté de Dieu est, il y a trois choses, est-ce que vous vous en rappelez? Bonne, agréable et parfaite. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? Plus on devient mûr dans la foi, plus on comprend que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais quand on manque de maturité, la volonté de Dieu est pénible. La volonté de Dieu est obscure. La volonté de Dieu est lourde et nous fait peur des fois. Qu'est-ce que Dieu veut? Oh là là, qu'est-ce qu'il va me demander encore? Et ça, c'est un manque de maturité dans la foi. Quand on aime Dieu, sa volonté ne nous fait pas peur. Parce qu'on l'aime, parce qu'on sait que ce qu'il va nous demander va être bon. Mais quand on a des doutes sur la bonté de Dieu, alors sa volonté nous fait peur. Pour beaucoup, elle est obscure parce qu'en fait, ils ne veulent pas la faire. Quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on n'arrive pas à la discerner. Dieu révèle sa volonté à ceux qui veulent la faire. Quand on dit « Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis prêt à faire ta volonté », là, je vous assure, la vie devient plus claire. Le Saint-Esprit dit « Ben voilà, il faut faire ci, la Bible vous dit ça, les chrétiens vous disent ça ». Votre vie avance, vous avez un chemin là, tout tracé. Mais quand on est dans la rébellion, dans la révolte, dans le doute, quand on dit « Oui, je veux bien obéir à Dieu qui me bénisse, mais il y a des choses, je ne veux pas le faire hein. ». Alors là, on est dans les combats, dans les luttes intérieures, on n'est pas bien, on n'est pas en paix, et alors le chemin est totalement obscur, parce que nous, on veut aller par là, mais en fait, la volonté de Dieu, elle est par là. Alors, on dit, mais c'est par là, Seigneur, montre-moi, donne-moi un signe que c'est par là. Et puis Dieu ne nous donne pas de signe. Si, si, Seigneur, et puis on finit par inventer des signes, hein, nous-mêmes. Combien de personnes hein, ont subi des choses terribles, hein, des mariages ratés, des entreprises qui s'effondrent hein. Parce qu'au lieu de suivre la volonté de Dieu, ils ont suivi leur plan à eux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on regarde le Seigneur Jésus en tant qu'homme sur la terre, il se nourrissait de la volonté de Dieu, c'est ce qu'il dit. Quand il avait 12 ans et qu'il est resté à Jérusalem alors que ses parents sont repartis vers Nazareth, ils l'ont retrouvé discutant avec des rabbins. Et ils ont dit, mais on était inquiets, ça te fait rien qu'on était inquiets comme ça, pendant 3 jours on t'a cherché partout. Et Jésus, qui avait 12 ans, leur a répondu, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, Il était déjà conscient qu'il devait faire la volonté de son Père. J'ai lu plein de livres sur Jésus, les histoires de Jésus, etc., où ils disent, oui, Jésus, en fait, a découvert plus tard, à la fin de sa vie, qu'il y avait un plan, qu'il était le Messie, mais au début, il ne savait rien. Si vous lisez un peu les évangiles, vous aussi, il savait très clairement pourquoi il était là, à 12 ans. 12 ans, c'est pour les Juifs la bar mitzvah, c'est là où on devient un homme. Quand il est devenu un homme, il a dit maintenant, je suis un homme de la Torah, je suis un homme par rapport à Dieu, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Il aimait la volonté de Dieu. Une fois, il était avec les disciples, et les disciples ont dit, tu veux manger avec nous? Et le Seigneur dit, non, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors entre eux, ils se sont dit, quelqu'un lui a apporté à manger, tu crois? Pourquoi il n'a pas faim? Pourquoi il ne mange pas avec nous? C'est terrible, hein, les êtres humains, on est toujours dans le matériel, nous. Hein. Et Jésus leur dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, qui est de faire la volonté de mon Père. Ce n'est pas que Jésus était là en disant oh, « Il faut que j'obéisse au Père. Oh là là, sinon je vais avoir des problèmes. » Jésus se nourrissait. Ça veut dire, c'était se nourrir, c'est agréable normalement. Hein. Quand on mange, on a du plaisir. C'était son plaisir de faire la volonté de Dieu. Il a cherché dans la prière la nuit, hein, il disait « Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse demain ?» Et c'est pour ça que Jésus ne se trompait jamais, que partout où il allait, il se passait des choses extraordinaires, parce qu'il était pleinement dans la volonté de son Père. Et jusqu'à la croix, avant la croix dans le jardin, hein, lorsqu'il a prié, il a eu cette lutte, et il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté. Et je crois que quand on passe ce cap, la vie chrétienne devient différente. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier cela aussi. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et qu'elle commence par moi, cette volonté. Qu'elle commence par moi, que moi je fasse ta volonté, que j'aime faire ta volonté, que je prie, Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu faire de ma vie? Ou Seigneur, j'ai ce projet, est-ce que c'est dans ta volonté? Combien de fois on a tous nos plans préparés et on est vraiment au bord, là, ça y est, d'accomplir son projet. Et là, on dit, ah, peut-être je devrais prier quand même. Mais c'est déjà presque trop tard. C'est avant d'avoir tout pensé qu'il faut prier. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On distingue en théologie deux formes de volonté de Dieu. Il y a la volonté absolue et la volonté permissive. C'est-à-dire que il y a ce que Dieu veut absolument. Par exemple, qu'est-ce que Dieu veut absolument? Est-ce que vous savez? Que tous les hommes soient sauvés, c'est écrit dans Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes seront sauvés? Apparemment non, parce que beaucoup sont morts dans l'incrédulité. Et ils ne pourront pas être sauvés dans l'incrédulité. Donc, ça veut dire que Dieu veut quelque chose, mais que l'homme aussi doit répondre, doit faire un choix par rapport à son salut. Est-ce que Dieu veut le péché et le mal? Non, on est d'accord. C'est la volonté permissive. Dieu le permet. Mais on se dit, mais d'ailleurs, on se demande, pourquoi Dieu permet tant de mal? Pourquoi Dieu ne vient pas juger? Et c'est Pierre, dans sa deuxième épître, qui répond, un Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse, justement, mais que tous arrivent à la repentance, il suspend son jugement pour que beaucoup viennent à lui se repentent. Et c'est ce qui doit nous encourager à annoncer l'Évangile. C'est que si Dieu n'est pas encore, si Christ n'est pas encore revenu juger la terre et régner, c'est parce qu'il y a encore des âmes perdues qui vont être sauvées. C'est la seule raison. Parce que Dieu veut encore sauver des âmes partout, en France et dans le monde. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous voulons que Christ règne sur la terre? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il règne déjà dans notre cœur? Voilà, qu'il ait la première place, qu'il soit le roi de notre vie. Est-ce que nous avons compris qu'il est venu prendre à Satan sa place de prince de ce monde, qu'il est venu lui prendre par sa puissance, par la croix, par la résurrection? Est-ce que nous avons compris ça? Nous sommes délivrés. Nous n'avons plus à vivre dans le péché. Nous n'avons plus à vivre sous le joug de Satan et du mal. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et je pense à ceux, aux chrétiens à qui on fait croire qu'ils sont encore influencés tout le temps par des démons. Dans certaines églises, on aime bien parler des démons en permanence et de dire « Ah oui, tu dois avoir un démon, si tu fais ci, s'il y a un démon, on va chasser les démons, on va chasser les démons. » Mais la Bible dit que les démons sont chassés déjà du cœur de celui qui a cru. Celui qui a cru, il est délivré, il est transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Je prie que nos prières change, que nous regardions plus à Dieu lorsqu'on prie, que l'on réalise sa présence, que on s'adresse au Dieu vivant, à celui qui veut régner, qui veut apporter la justice. On ne s'adresse pas à un distributeur, on ne s'adresse pas à un guichet, comme je l'avais dit la semaine dernière. On s'adresse à quelqu'un qui nous aime, qui est juste et saint, et qui veut que sa volonté soit faite. Alors prions dans la volonté de Dieu, parce que c'est là qu'on sera exaucé. Et prions que son règne avance et vienne, que les âmes soient sauvées et que le mal recule. Merci de votre attention. On peut chanter les dernières strophes et puis...